l'ouverture de la foire de Bourail, 47e du nom. Nos équipes sont sur place, nous les rejoignons dès le début de ce journal. C'est aujourd'hui 15 août, la fête de l'Assomption. Des centaines de pèlerins participent au pèlerinage de la Conception. Le plan de réforme du gouvernement adopté dans la douleur hier soir au Congrès, il doit permettre le versement de la seconde tranche du prêt garanti par l'État. En métropole, l'annulation de la projection du film Barbie à Noisy-le-Sec suscite la polémique et le maire se défend. Rencontre au sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine dans quelques heures. Donald Trump espère arriver à convaincre le président russe de conclure un cessez-le-feu. Et puis dans la page sport, la reprise ce week-end de la saison de Ligue 1, présentation complète en Calédonie. C'est aujourd'hui le coup d'envoi des internationaux de Nouvelle-Calédonie de tennis de table. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. C'est donc aujourd'hui le 15 août, fête de l'Assomption et jour férié. Une fête marquée par le pèlerinage de la Conception. Nous y reviendrons dans un instant. Mais d'abord, direction Bourail. La 47e foire de Bourail est en effet ouverte depuis ce matin et nos équipes sont sur place. Bonjour Nicolas Legrand. Voilà, on vous entend de loin sur le stand Radio Rythme Bleu depuis cette foire de Bourail. Vous nous présenterez une table ronde spéciale à la fin du journal, mais avant cela, on fait un petit point avec le président du comité d'organisation.
Oui, Lévi Roy qui est avec nous ce midi. Merci d'être avec nous sur le studio RRB. Bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est une foire arrosée pour son retour après deux ans d'absence, enfin une année d'absence. Vous vous attendiez à autant de pluie ?
Non, pas autant de pluie, mais oui, on s'attendait à la pluie, donc on s'est organisé avec la mairie, on a pas mal de prestataires pour débourber les voitures. Donc on demande un petit peu à tout le monde d'être patient et on va dire que oui, c'est mouillé, mais bon, on va dire qu'elle est bénie en tout cas pour son retour.
Oui, et ce qu'on voit, c'est que les gens ne perdent pas le sourire pour autant, ils sont heureux d'être là et ils ont envie de passer ce moment de foire ici à Bourail.
Oui, oui, remarque aussi le changement, on a un petit peu tout modifié, donc bon, la pluie s'est invitée à tout ça, mais bon, on est très heureux, et puis je vois du sourire, je vois un petit peu tout le monde qui se rassemble un peu sous les tribunes et tout ça, donc voilà, un beau moment en tout cas.
Bah, je propose justement d'écouter quelques-uns de ces visiteurs ravis d'être là malgré la pluie, écoutez.
On est venu en famille, on est à trois là et on est venu passer la journée. On arrive au coin des vaches là, donc on découvre.
Je suis venue avec les enfants et mon compagnon. Ouais. Oui, c'est un événement incontournable pour la commune de Bourail.
Venir au cœur du pays, je pense. Ouais. Voilà.
Honnêtement, on est là vraiment pour découvrir, je dirais, dans la globalité.
Et voilà, les gens qui sont là pour venir découvrir, aller à la rencontre des exposants. On a déjà vu les premiers concours d'animaux. On a vraiment des belles bêtes aujourd'hui hein, sur le champ de foire.
Oui, les éleveurs ont joué le jeu, ça a été compliqué pour eux avec un petit peu cette polémique qui a été autour de la foire, de préparer les bêtes, vous savez que c'est très lent. Et je remercie les Upra d'avoir joué le jeu avec nous et de nous avoir accompagnés dans le changement aussi, et aussi mon équipe. Hein. Ça a été encore une difficulté, j'ai envie de dire, pour cette nouvelle foire. Quoi. Ouais.
Alors, faut pas avoir peur de la pluie, il faut venir dès aujourd'hui, parce qu'il y a déjà des temps forts aujourd'hui. Est-ce qu'on peut peut-être les rappeler, ces quelques temps forts?
Oui, on a beaucoup de temps forts, on aura les jeux équestres là, qui vont démarrer, donc on est en train de sécuriser le terrain pour que, en tout cas, le public puisse apprécier cette démonstration et cette petite compétition entre amis. Je répète, on a plus de 100 cavaliers quand même cette année, c'est énorme, hein. Beaucoup de personnes sont déplacées de tout le pays pour venir célébrer ensemble ça. Et ce soir, on a l'élection de Miss où on fait le retour sur l'élégance des filles Nouvelle-Calédonie et ça vaut le coup, comme on dit chez nous.
De quoi bien lancer ce week-end. Merci beaucoup, Lévi Roy, d'avoir été avec nous. Merci. On va se retrouver tout à l'heure donc, pour ce plateau entre 12h30 et 13h pour faire un point sur la foire, mais aussi sur le monde de la brousse, le monde agricole. On en parlera notamment avec nos invités, Alcide Ponga, le président du gouvernement, Jean-Christophe Niotou, le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche, et d'autres invités seront avec nous sur ce même plateau, puisque vous le savez, on vous fait vivre la foire de Bourail en direct de notre stand, un stand qui est en fait un véritable studio. Vous retrouverez notamment Route 66 avec Jean-Luc Leroux à partir de 16h samedi, sans oublier Canal Folie, vos dédicaces avec Thierry entre 8h et midi, ça ce sera dimanche matin en direct de la foire de Bourail. Voilà Jean-François.
Merci beaucoup Nicolas, on vous retrouve à la fin donc de ce journal pour cette table ronde spéciale. Et n'oubliez pas non plus de passer sur le stand. Il y a de nombreux lots pour le jeu de la roue. Il y en aura 7 tout au long du week-end autour de Thierry. Donc rendez-vous sur le stand Radio Rythme Bleu. C'est donc aujourd'hui la fête de l'Assomption, fête catholique qui commémore la montée au ciel corps et âme de la Vierge Marie. C'est aussi la fête patronale du diocèse de Nouméa et elle donne lieu au traditionnel pèlerinage de la Conception. Le reportage au milieu des pèlerins de Kélinda Boiscou.
Malgré la pluie, les pèlerins sont nombreux à cheminer vers l'église de la Conception. Ils sont venus avec le sourire et la joie dans la foi pour rendre hommage à la Vierge Marie. Parmi les pèlerins qui ont marché, ceux de la paroisse de Tina et celle du mémorial de Rivière-Salée, conduite par le père Michel Toekijo.
Eh ben, c'est le pèlerinage diocésain d'abord. C'est la montée de la Vierge au ciel, puisqu'elle est montée corps et âme vers le Seigneur. Voilà que c'est une fête de la Vierge Marie. C'est notre maman du ciel, c'est notre mère accompagnatrice, et puis c'est surtout pour nous, c'est la fête du diocèse.
Aujourd'hui, beaucoup de groupes de prières en famille, groupes de paroisses. On peut dire que, comme d'habitude, la paroisse de Tina et de Rivière-Salée est représentée aujourd'hui.
Oui, en effet, avec un départ de la Rivière-Salée et puis un départ de Notre-Dame-de-Lourdes de Tina. Mais en même temps, cette année, on a la chance d'avoir beaucoup de jeunes qui nous aident beaucoup. Et puis la commission des jeunes, elle est active depuis leur séjour à Téné. Je suis heureux de les accompagner. Ils font le chapelet de la miséricorde et puis le chapelet avec les différents mystères. Donc ça leur permet aussi de recentrer sur la prière et puis sur l'essentiel, sur le Christ et puis sur la Vierge Marie.
Le thème de cette édition 2025, c'est celui de l'année jubilaire. L'espérance ne déçoit pas. Simon-Pierre Séloui du comité 15 août.
L'espérance ne déçoit pas, thème pastoral de l'année qui justement nous conduit et nous fait méditer sur cette parole d'espérance. Depuis l'aube ce matin, les différents points de départ ont été annoncés. Nous avons encore une fois beaucoup tout au long de ce pèlerinage des familles, des petits-enfants, des enfants, des adolescents. Donc nous sommes heureux en tous les cas de tous les accueillir. Malgré la pluie, ancrés dans l'espérance, la pluie ne pourra jamais nous arrêter.
Depuis 7h ce matin, les pèlerins marchent en groupe de prière ou en famille, en récitant le chapelet ou en chantant des cantiques.
On est de Marivière, c'est cool. Nous, on s'est fait déposer au lycée de Mondor pour pouvoir justement faire ce sacrifice-là, le jour de l'Assomption. Nous avons récité le rosaire.
On fait un chapelet de notre Père, dit « Je vous salue Marie ». Après, on raconte un peu la vie à mon mari, Jésus. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on est arrivé devant le cimetière, après on a continué notre prière.
Pour ma part, en fait, ça représente beaucoup pour moi, mon cœur. Ça me permet de passer un bon moment déjà avec la famille et aussi de me rallier avec la foi que j'ai émise pendant toutes les années.
Je suis croyant, je suis catholique, les grands événements comme ça, mais je profite, comme je ne travaille pas, je profite de venir faire le pèlerinage et faire la prière pour la famille et pour nous, la Calédonie. Pour moi, c'est mon mari qui est quand elle monte vers les cieux. Du coup, c'est un privilège de venir la célébrer avec tout le monde.
Paroisse du Bon Pasteur. La fête de l'Assomption, c'est comme d'habitude, c'est ce moment-là où on se rejoint ici au lieu même de la Conception pour pouvoir prier, chanter et partager dans un même cœur.
Paroisse de Saint-Louis, c'est un jour spécial où on met maman Marie à l'honneur. Et pour ce jour, on a l'occasion de réunir tous les jeunes du Sud à Conception pour pouvoir préparer le site et accueillir tous les pèlerins qui viennent prier la Vierge Marie.
Au programme cet après-midi, le chapelet médité suivi de la grand-messe à 15h. Elle sera célébrée par l'archevêque de Nouméa, Mgr Soussitino Sounepui. C'était Kélinda Boiscou de l'église de la Conception pour Radio Rythme Bleu.
Et venons-en maintenant à l'actualité institutionnelle. Le plan de réforme budgétaire, sociale et fiscale visant à rétablir l'équilibre des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie a été adopté dans la soirée d'hier au terme d'une très longue séance du Congrès et après de très vifs débats. Il prévoit environ 20 milliards d'économies et il doit permettre à la fois de relancer l'économie et de retrouver les équilibres financiers d'ici 2028. L'adoption de ce plan de réforme conditionne par ailleurs, Elisabeth Noir, le versement par l'État de la deuxième tranche du PGE.
Ce plan préparé par le gouvernement était soutenu par les loyalistes et le Rassemblement, mais dans un premier temps, tous les autres groupes politiques y étaient opposés. Il a finalement été adopté par 25 voix contre 21. La séance a été marquée par plusieurs rebondissements, par le dépôt de plusieurs amendements et par de nombreuses suspensions. Dès l'ouverture des débats, les veilleux saniens avaient déposé une motion préjudicielle avant de la retirer. La présidente du Congrès a tenté quant à elle de renvoyer le texte en commission, mais elle a dû y renoncer. Les débats ont souvent été houleux. L'éveil océanien a dénoncé un braquage de la population calédonienne semble à parler d'une attaque contre les plus défavorisés et l'Union calédonienne a reproché à ce plan d'être composé de mesures d'inspiration libérale. Face à l'opposition de ces différents groupes, Thierry Santin, membre du gouvernement en charge des finances et qui a largement participé à la préparation de ce plan, a tenu à faire une mise au point très ferme.
La Nouvelle-Calédonie n'a plus d'argent. Nous n'avons plus un rond. Enfin, je ne sais pas comment le dire. Quand il n'y a pas, il n'y a pas, certains disaient à une certaine époque. On n'a plus un rond. La seule chose qui... Mais non, mais parce que depuis tout à l'heure, vous dites la Nouvelle-Calédonie doit prendre en charge l'aide médicale, la Nouvelle-Calédonie doit prendre en charge tel ou tel travaux. On n'a plus un rond. Seule chose qui nous permet de survivre tous, c'est le prêt garanti par l'État. Ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est ça la réalité. C'est pas autre chose. Si on n'a pas ce prêt, c'est tout qui se casse la figure.
Il n'y avait donc pas de majorité pour adopter le plan de réforme, mais en fin de journée, un amendement a débloqué la situation avec la création d'un comité de suivi. Il sera composé du président du Congrès, du président du gouvernement, des chefs de groupe et des présidents des assemblées de province. Un élément qui a convaincu le groupe uni de voter en faveur du texte, comme l'explique Itoupan Tiewe.
Alors initialement, le groupe uni est parti pour s'abstenir sur le texte et les amendements amenés en dernier lieu nous indiquent qu'il y aura un comité de suivi justement pour la mise en œuvre des différentes propositions qui sont faites par le gouvernement en termes de loi du pays ou de délibération. Donc nous avons aussi expliqué notre vote par la responsabilité que nous avons aussi ici dans cet hémicycle à voter des mesures qui viennent aussi abonder les budgets des collectivités, mais aussi pour pouvoir percevoir la deuxième tranche du prêt de l'État. On ne sait pas si ce sera les 27 milliards ou moins, mais c'est aussi pour cela que nous avons pris la décision de voter ce projet de délibération à monnaie.
Au terme des débats, les Vaillocéens, l'Union calédonienne et Calédonie Ensemble ont voté contre le plan de réforme. Les partisans de la France, Loyalistes et Rassemblement et l'UNI ont voté pour et le texte a finalement été adopté par 25 voix contre 21, au grand soulagement de Virginie Rufnak, la présidente du groupe Rassemblement.
Ça a été adopté au forceps, hein, et donc on se pose la question de savoir si la Calédonie est réformable. Heureusement, effectivement, ce plan a aujourd'hui été adopté grâce à ceux qui ne veulent pas laisser tomber les Calédoniens. C'est-à-dire que nous avons un système de santé au bord de la rupture, nous avons un système électrique au bord de la rupture, nous avons des retraites que nous ne savons pas comment pérenniser. Et finalement, cette réforme aujourd'hui à la fois permet de faire des économies à la Nouvelle-Calédonie pour passer le cap, mais elle permet surtout de débloquer des fonds considérables de l'État pour venir au chevet des Calédoniens, qu'ils aient chacun un emploi et qu'on ne mette pas à l'abandon notre système, encore une fois, de santé, système électrique, retraite et tous les dispositifs sociaux qui existent. Donc c'était essentiel car nous étions en très grande difficulté si ce plan de réforme proposé par le gouvernement n'était pas adopté par le Congrès.
Soulagement aussi pour le gouvernement qui a préparé ce plan de réforme budgétaire, social et fiscal visant à rétablir l'équilibre des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie. La réaction du porte-parole Christopher Gigès.
C'est surtout une très bonne chose pour les Calédoniens puisque ça permet de débloquer la seconde tranche du prêt de l'État qui va nous permettre de payer les allocations chômage, de relancer l'économie calédonienne, de permettre aux collectivités calédoniennes de poursuivre leurs investissements. Il y a des mesures également de relance de l'économie calédonienne et je crois que maintenant on peut réellement avancer. Je regrette qu'il y ait eu des postures politiciennes dans cet hémicycle. Je crois que le débat aujourd'hui vaut mieux que ça et je remercie les élus qui ont accompagné ce plan et qui accompagnent la réforme nécessaire de la Nouvelle-Calédonie.
Le plan de réforme a donc été adopté et un amendement précise que les orientations contenues dans ce plan seront mises en œuvre sous la forme de loi du pays et de délibération après examen par le comité de suivi du plan de réforme qui a donc été créé hier après-midi.
Et puis rappelons, Elisabeth, que Manuel Valls arrive mardi en Nouvelle-Calédonie pour une visite de 4 jours. C'est sa 4e visite sur le territoire depuis le début de l'année 2025 et depuis sa nomination rue Oudinot.
Le programme du ministre des Outre-mer n'a pas encore été rendu public, mais il devrait arriver mardi soir et repartir dans la nuit de samedi à dimanche. Dans un courrier adressé hier au sénateur de Bougival, Manuel Valls donne quelques éléments sur son séjour. Il est prévu des entretiens bilatéraux le mercredi 20 août dans l'après-midi. Le lendemain, jeudi 20 août, il installera le comité de rédaction et de nouvelles rencontres sont prévues le samedi après-midi. Au cours de cette visite, le ministre des Outre-mer veut, on le sait, rencontrer toutes les délégations politiques. Il veut aussi aller à la rencontre des Calédoniens, du Sénat coutumier, des maires, des forces économiques et sociales, ainsi que des personnels de santé. L'objectif, c'est de débloquer la situation née du rejet de l'accord de Bougival par le FLNKS. Mais Manuel Valls, qui juge cette décision incompréhensible, ne se résigne pas et il affirme que sa détermination reste intacte. Il a donc décidé de respecter l'agenda de mise en œuvre de l'accord en commençant par l'installation de ce comité de rédaction qui sera chargé d'affiner et de consolider les textes de loi constitutionnels et organiques. Un travail qui, selon le ministre, permettra de lever les ambiguïtés et de clarifier l'esprit de l'accord pour tous les Calédoniens. Pour Manuel Valls, le calendrier de l'accord doit être respecté avec notamment le report des élections provinciales et une proposition de loi organique a donc été déposée au Sénat pour reporter à juin 2026 ces élections. Dans cette mise en œuvre de l'accord, Manuel Valls est soutenu par les loyalistes et le Rassemblement, par Calédonie Ensemble et l'Éveil Océanien et par les indépendantistes de l'Unipalika. Il pense pouvoir compter également sur le soutien d'une large part de la population. Le ministre des Outre-mer cherchera donc, lors de cette visite, à renouer le dialogue avec le FLNKS. « Ma porte reste ouverte », a-t-il dit à plusieurs reprises, et il martèle que seul le dialogue permettra de surmonter les incompréhensions. Mais il sait aussi que la porte est étroite et que sa marge de manœuvre est réduite pour convaincre le nouveau FLNKS de respecter sa signature.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la réponse à notre question d'hier. 75% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS estiment que la centrale à côté temporaire de la SLN qui alimente à 90% l'usine de Dognambeau doit devenir une centrale permanente. Ils sont 25% à penser qu'elle ne doit pas devenir une centrale permanente. Merci pour votre participation et rendez-vous lundi pour une nouvelle question du jour. Il est midi et bientôt 17 minutes. Une première pause dans ce journal et on se retrouve dans un instant pour évoquer l'actualité en métropole et dans le monde.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Tu as moins de 30 ans? Tu veux trouver un emploi ou lancer ton projet en Nouvelle-Calédonie? Rejoins le programme de parrainage de talents calédoniens. Un chef d'entreprise t'accompagne, tu bénéficies d'un réseau, d'ateliers et d'un suivi personnalisé pour réussir ton parcours. Inscris-toi vite sur la page Facebook de Talents Calédoniens en remplissant le formulaire. Candidature ouverte jusqu'au 24 août. Inscris-toi vite et fais décoller ton avenir. Talents Calédoniens, un parrain pour demain.
On la croyait disparue à tout jamais, mais cette année, elle est de retour.
Mais attends, mais tu parles de qui, là?
De la...
La Foire de Bourail. Eh oui, elle est de retour. Après le Royal Caledonia Show à Nouméa, la Foire de Bourail, la vraie, la seule et l'unique, celle qui rassemble toute la Calédonie, la préférée des Calédoniens, celle qui se déroule à Téné.
Oui, non, mais ça va, on a compris, là.
C'est les 15, 16 et 17 août 2025 pour la 47e édition. Plein de changements et de surprises vous attendent. Alors rendez-vous à Bourail les 15, 16 et 17 août.
Infomag vous est présenté par la Société Lefroy et Coca-Cola. Suivez toute leur actualité sur leur page Facebook et Instagram.
Votre tranquillité d'esprit avant tout. Pour recevoir toutes les informations importantes sur les coupures, le montant de votre facture et la date d'autorelève, mettez à jour vos contacts e-mail et numéros de téléphone. Contactez-nous à clientèle@cde.nc ou au 05 01 25. Calédonienne des eaux, l'eau qui nous unit.
À partir du 15 août, ce sont les Gémeaux Days. Dès 3 articles achetés avec une étiquette rouge Gémeaux Days, vous avez 30% de remise. Pour 4 articles, 40%. Et pour 5 articles et plus, moins 50% sur l'ensemble de ces articles. Il y a de quoi se faire plaisir. L'offre est valable dans les deux magasins Gémeaux Vêtements Ducos et Alma et dans tous les rayons. Et ça, c'est jusqu'au 29 août. À bientôt chez Gémeaux pour les Gémeaux Days.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
Pendant les vacances, Bureau Vallée pense à vous. Les rayons Beaux-Arts, Loisirs Créatifs et Librairies sont à moins 20%. Rendez-vous dans votre magasin Bureau Vallée Magenta, ouvert en continu de 8h à 18h du lundi au samedi.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Offre valable du 9 août au 23 août 2025.
La Foire de Bourail est de retour les 15, 16 et 17 août. Faites votre carburant dans les stations Shell et Pacifique pour tenter de gagner un Toyota Hilux spécial Foire de Bourail. Urne et tirage au sort à la foire le 17 août. N'oubliez pas de remplir votre bulletin de participation.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
L'actualité en métropole et le maire de Doisy-le-Sec est en colère. Il a porté plainte contre un groupe de jeunes qui a proféré des menaces à l'encontre de plusieurs agents municipaux qui préparaient la diffusion en plein air du film Barbie. Film qui fait, selon ces jeunes, l'apologie de l'homosexualité et qui porte atteinte à l'intégrité de la femme. Cette projection a finalement été annulée et le maire de la commune, Olivier Sarah-Bérousse, s'intonne du retentissement de cette affaire qu'il juge disproportionnée alors qu'il estime qu'il s'agit d'un simple problème local. Il dit avoir voulu protéger ses agents, condamne une récupération politique et, je cite, « la haine islamophobe déversée par la droite et l'extrême droite ».
L'obscurantisme
terme que j'ai employé dans mon communiqué, n'est pas l'apanage de l'islam ni d'aucune autre religion et n'est pas circonscrit à la Seine-Saint-Denis et aux quartiers populaires que la droite et l'extrême droite se plaît à stigmatiser en permanence.
Autre maire en colère, celui d'Épinay-sur-Seine. Un arbre dédié à Ilan Halimi a été tronçonné. Ilan Halimi, c'est ce jeune juif torturé et tué en 2006 par le gang des barbares. Un acte clairement antisémite. Jacques Serey pour Europe 1.
Hervé Chevreau, le maire sans étiquette d'Épinay-sur-Seine, n'en revient pas.
C'est vraiment un choc terrible parce qu'on n'a jamais eu un souci avec l'ensemble des communautés sur la ville d'Épinay-sur-Seine. C'est un acte vraiment odieux, ignoble. C'est vraiment un acte antisémite. On ne peut pas avoir d'autres mots, sachant qu'au pied de cet arbre-là, il y avait effectivement la stèle en mémoire d'Ilan Halimi avec une citation, et qu'il y avait d'autres arbres dans le parc, et qu'il y avait d'ailleurs un autre olivier dans ce parc. L'individu est bien venu couper celui-ci.
Consterné, dépité, cet élu y voit la conséquence d'une atmosphère créée par certains responsables politiques.
Il suffit dans l'esprit d'un individu qui soit à l'écoute de certaines paroles ou de certaines manifestations, fait que ça peut dégénérer, comme c'est le cas par rapport à ce qui s'est passé cette nuit à Épinay-sur-Seine.
Vous pensez à la France Insoumise en particulier ?
Oui, parce que sur la ville d'Épinay-sur-Seine, la France Insoumise et la CGT manifestent depuis un certain nombre de samedis sur l'espace public par rapport à la situation de Gaza. Il y a obligatoirement un lien de près ou de loin.
Hervé Chevreau a porté plainte. Il espère désormais que la vidéosurveillance aux abords du parc permettra de retrouver l'auteur de l'abattage de cet arbre.
Toujours au chapitre des faits divers, quatre corps retrouvés dans la Seine à Choisy-le-Roi. Il s'agirait de trois hommes de type africain et un de type nord-africain, des cadavres qui sont en état de décomposition. L'un de ces cadavres était dénudé, un autre portait des traces de strangulation. Une enquête a été ouverte. Dans le reste de l'actualité en métropole, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, au chevet des exploitants de l'Aude, 16 000 hectares ont été détruits par les flammes et de nombreuses exploitations ont été touchées par ce qu'on a qualifié d'incendie du siècle. La ministre a annoncé la mise en place d'un fonds d'urgence et la mise en place d'un dispositif fiscal d'exonération de taxes foncières pour les viticulteurs sinistrés. Le reste de l'actualité en métropole en chiffres, plus 23%, c'est la hausse de la mortalité routière en métropole en un an. Et puis 124 000 dollars, c'est-à-dire 12 millions de francs, c'est le nouveau record du Bitcoin dont la valeur ne cesse de grimper. L'actualité à l'étranger avec la rencontre Trump-Poutine la nuit prochaine pour nous en Alaska. Un sommet en tête-à-tête entre les deux dirigeants pour évoquer le conflit en Ukraine. Donald Trump espère arriver à convaincre le président russe de conclure un cessez-le-feu. Le résultat des discussions donnera lieu à une conférence de presse des deux dirigeants. Wilfried de Villers pour Europe 1.
L'image tient avant tout du symbole Donald Trump et Vladimir Poutine face aux journalistes du monde entier. À Anchorage, plus grande ville d'Alaska, les deux hommes devraient se retrouver à partir de 21h30, heure de Paris, pour des échanges qui débuteront par un tête-à-tête. Le Kremlin confirme que l'ordre du jour du sommet portera principalement sur le règlement de la crise ukrainienne et sur la sécurité internationale. Mais les questions demeurent. Donald Trump et Vladimir Poutine parviendront-ils à trouver un terrain d'entente pour un cessez-le-feu ? Que vont-ils bien pouvoir négocier en l'absence de Volodymyr Zelensky ? Donald Trump fera-t-il aussi entendre la voix des Européens avec qui il s'est entretenu hier ? Le président américain affirme aujourd'hui qu'aucun accord de paix ne se fera sans Volodymyr Zelensky et il pousse en ce sens pour un autre sommet trilatéral cette fois avec le président ukrainien. Et Donald Trump le répète comme un avertissement, il faudra à terme partager des territoires. En clair, que Kiev accepte de céder certaines zones actuellement sous contrôle russe.
Il est midi et 24 minutes, une dernière pause dans ce journal et ensuite c'est l'actualité sportive. On verra que le championnat de Ligue 1 reprend ce week-end. N'oubliez pas, ensuite nous repartirons à Bouraille pour une table ronde spéciale.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La ville de Nouméa, accompagnée des disciples d'Escoffier, vous propose un jeudi du centre-ville spécial gastronomie. Stand de fruits et légumes, produits agricoles et de la mer, art de la table et dégustation. Venez également à la rencontre de notre invité d'honneur, le chef Frédéric Jauneau, meilleur ouvrier de France primeur 2011, meilleur pâtissier de France et champion d'Europe de sculpture sur légumes. Rendez-vous sur la place des Cocotiers, jeudi 21 août de 9h à 19h. Info sur nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa ma ville.
Ville de Nouméa ? Partageons l'événement.
Prêt pour un lavage parfait ? Pour un linge impeccable, même à l'eau froide, Gamma prend soin de vos blancs et couleurs, tout en leur offrant une fraîcheur intense qui dure longtemps. Gamma, le choix malin pour votre lessive. Découvrez nos nouveaux parfums de lessive Gamma dans votre magasin le plus proche. Gamma, le choix malin.
Elles sont là. Les Nike Air Force One viennent de débarquer chez Ozone Sport au prix de 12 500 francs. Oui, vous avez bien entendu. À seulement 12 500 francs. Retrouvez-nous au centre-ville de Nouméa. Ozone Sport, votre revendeur officiel Nike.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
La suite de votre journal avec Jean-François Baudin.
On va commencer par le football, parce que c'est demain pour nous que sera donné le coup d'envoi de cette saison 2025-2026 du championnat de France de Ligue 1. Nouvelle saison qui, on ne va même pas le mettre au conditionnel, Lionel Sabot, sera dominée à n'en pas douter par le PSG.
Ah oui, les champions d'Europe parisiens risquent en effet, encore une fois, d'être intouchables cette saison en Ligue 1, même si l'Olympique de Marseille, fort d'un recrutement prometteur, se verrait bien titiller l'ennemi juré dans un championnat qui enregistre le retour de trois champions du monde 2010. Paul Pogba, Olivier Giroud et Florian Thauvin. Un championnat qui débute dans une drôle d'ambiance d'un point de vue extrasportif. En effet, pour les clubs, l'incertitude perdure sur le plan financier après le départ du principal diffuseur, la plateforme britannique DAZN, remplacée par une chaîne montée de toutes pièces et un peu à la va-vite par la Ligue de football professionnelle. Sans visibilité sur les ressources et le montant des droits TV, c'est une cure d'austérité qui est donc imposée aux 18 clubs de Ligue 1. Dans cette situation, le fossé pourrait encore plus se creuser entre le PSG qui sort d'une saison historique et les autres. Les champions d'Europe de Luis Enrique évoluent dans une autre dimension, sur une autre planète, tant sur le plan sportif qu'économique. Et l'empêcher de rafler un 14e titre serait un immense exploit, même avec une préparation tronquée en raison de la fin de saison tardive et le mondial des clubs aux États-Unis. On voit mal qui pourrait concurrencer le Paris Saint-Germain.
Alors, le PSG est trop fort pour la Ligue 1, c'est un fait, mais comme chaque saison, les fans de l'Olympique de Marseille vont une fois de plus croire à l'impossible.
Le Dauphin de Paris, lors du dernier exercice, qui retrouvera les folles soirées de Ligue des Champions au Vélodrome d'ici quelques semaines, a singulièrement musclé son attaque avec les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang ou encore de Timothy Weah, tout en gardant ses deux piliers, Adrien Rabiot et Mason Greenwood. À défaut de pouvoir menacer le PSG, les dirigeants olympiens aimeraient déjà poursuivre sur leur lancée avec toujours aux manettes le charismatique entraîneur italien Roberto De Zerbi. Si le suspense pour le gain du titre est loin d'être garanti, la Ligue professionnelle de football espère attirer le chaland et les abonnés, surtout pour sa chaîne Ligue 1 Plus, avec le rapatriement de trois anciens glorieux, trois champions du monde 2018, je vous le disais. Avec Paul Pogba, Monaco tente un sacré pari. En effet, l'international français aux 91 sélections arrive sur le rocher après trois années cauchemardesques qui se sont résumées à une affaire d'extorsion dont il était victime, une suspension de 18 mois pour dopage et des blessures à répétition. Ça fait rêver. On notera aussi le retour en Ligue 1 d'Olivier Giroud, 38 ans, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France qui s'est engagé avec Lille après avoir passé une saison au Los Angeles FC. Et puis dans le Nord, destination qui semble attirer les champions du monde 2018, Lens, le grand rival de Lille, a signé il y a quelques jours Florian Thauvin en provenance du club italien de l'Udinese. Outre ces trois champions du monde, l'autre grande attraction de cet exercice 2025-2026, ce sera un club, le Paris FC, l'un des promus. Un retour d'un second club parisien dans l'élite, synonyme du retour du derby dans la capitale.
Voilà donc pour le panorama général. Il nous reste, Lionel, à savoir quel sera le programme de cette première journée.
Et c'est demain matin pour nous que sera donné le coup d'envoi de la saison. En ouverture de la première journée, tous les regards seront tournés vers la Bretagne puisque le Stade Rennais recevra l'Olympique de Marseille. Les autres matchs se joueront dimanche et lundi matin pour nous. À suivre dimanche, Lens-Lyon, Monaco-Le Havre et Nice-Toulouse. Lundi matin, à suivre Brest-Lille, Auxerre-Lorient, Metz-Strasbourg, Angers-Paris FC et Nantes-Paris-Saint-Germain.
Ça, c'était pour le foot. On passe maintenant au basket et l'équipe de France enchaîne les victoires avant de disputer l'Euro à la fin du mois.
Et après deux mises en bouche, deux victoires contre le Monténégro 81-75 et la Grande-Bretagne 74-67, les hommes de Frédéric Fautoux ont battu l'Espagne ce matin à Badalone, c'est tout près de Barcelone, lors de leur troisième match de préparation, score final 75-67. Il s'agit là pour l'équipe de France de son premier gros test, deux semaines de son entrée en lice dans l'Euro 2025. Les Bleus toujours invaincus depuis que Frédéric Fautoux a pris la succession de Vincent Collet après les JO 2024. Retrouveront l'Aurora dimanche matin pour nous, ce sera à Bercy pour un avant-dernier match de préparation. Les Bleus qui n'avaient plus battu l'Espagne depuis 2014 ont mis fin ce matin à une série de 5 revers consécutifs contre les champions d'Europe en titre.
Allez, avant de repartir à Bouraille pour une table ronde spéciale, parlons du sport sur le territoire. Il y a notamment du tennis de table. C'était le coup d'envoi ce matin des internationaux de Nouvelle-Calédonie à la salle Omnisport de Lens-Vatal et au Fichou.
Oui, ce sont les plus jeunes, les moins de 12 ans, les moins de 15 ans aussi, et puis les plus anciens, les vétérans qui ont ouvert le bal. Une compétition qui va durer une dizaine de jours avec un format un peu chamboulé, explique Patrick Gilman, président de la Ligue calédonienne de tennis de table.
On a priorisé les tableaux où il n'y avait pas les Vanuatais qui arrivent ce soir uniquement par avion. Donc il fallait aménager un petit peu tout cela pour leur permettre de participer à un maximum de tableaux. Aujourd'hui, on n'est pas loin de 30. Et sur l'ensemble du tournoi, on est entre 70 et 80. Les pays qui sont restés, ce sont les pays du Pacifique, puisque l'Australie et la Nouvelle-Zélande avec d'autres compétitions dans la semaine. Donc il y a Tahiti et le Vanuatu pour permettre à tous nos joueurs de haut niveau, entre guillemets, de se préparer pour les Jeux de Papeete, où la compétition va durer une bonne semaine. Et souvent, nos compétiteurs pêchent sur la fin pour manque de conditions physiques. Donc c'est bien qu'on les entraîne à ce genre d'exercice.
Et les internationaux de Nouvelle-Calédonie de tennis de table ont donc commencé ce matin à la salle Omnisport de Lens-Vata et continuent jusqu'au dimanche 24 août.
Midi et 31 minutes, c'est la fin de ce journal.